l'église.
On va pas y passer la nuit.
Ah, mollo sur le destroy.
Juste à gauche de Saint-Af,
aucune l'église.
Et les gars, et mollo sur le destroy là.
On va pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va quand même pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va pas quand même y passer la nuit.
Et bah où?
Au cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et moi le chou,
mollo sur le destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
On est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer,
pas y passer la nuit.
Au cul de l'église, mon gars.
Et bienvenue au cul de l'église. Ce soir, nous sommes avec une équipe extrêmement réduite, puisque nous ne sommes que trois.
Ouais.
Et trois en comptant le technicien. Hein. On n'a jamais fait
double
aussi
ouh.
Léger. C'est la dèche. Tout le monde s'est barré passer les fêtes en famille.
Lâcheur.
Ne reste que quelques acharnés qui vont animer la soirée avec vous. Nous avons donc Vince, fidèle au poste, qui est venu pousser un coup de gueule sur les attentats de Berlin.
Ou pas que sur les attentats de Berlin, c'est global. Bonjour.
Salut.
J'ai oublié de vous saluer.
Il profitera aussi du temps supplémentaire dont il va forcément disposer pour revenir un peu sur son sujet de la semaine dernière, sur les études d'impact.
Mais pourquoi on aurait du rap de temps? Je comprends pas.
Une question comme ça. Ensuite, il y a moi, Camille, qui me retrouve catapultée au rôle de rédac chef dès ma deuxième visite.
Désolé, Camille.
Sous-effectif oblige.
Eh oui, c'est la crise, ma pauvre dame. On fait avec ce qu'on a.
On multiplie les compétences.
À trois personnes, je devrais pas trop galérer à tenir l'équipe. C'est un bon entraînement. Et cette fois, je ne vexerai presque personne, puisque je vais vous parler des fêtes de Noël. Et plus particulièrement, des fêtes qui se déroulent dans la belle famille. Et enfin, nous avons Shams, bien sûr,
ouais.
Qui reprend ses bonnes vieilles habitudes en assurant à la fois le rôle de technicien et celui de chroniqueur.
J'ai réussi déjà à lâcher celui de rédac chef. Je suis pas trop mal content, mais je suis encore désolé, Camille, de te mettre dans cette situation-là. En général, je...
Oh, ça lui fait les pieds. Après son papier contre le machisme au cul de l'église, qui est quand même peuplé que d'hommes.
Maintenant, je prends la main. Attention.
Voilà. Bah non, mais disons que c'est un gage. Voilà.
Ah,
tu es
rédac
chef. Voilà, c'est ça.
Fais okay. Gaffe, Vince, le vent tourne.
Ouais, c'est ça.
Tu avais plein d'occasions pour devenir rédac chef et tu as laissé...
Ah bah ouais, mais là j'ai... Non, la flemme. Puis à chaque fois j'arrive trop à la bourre et tout, je peux pas m'en charger, t'as bien vu.
Donc, Shams, justement, qui va nous parler de radio, avec un retour sur ses 4 années passées au sein de Radio Saint-Afrique. Donc l'émission commencera avec lui. Vas-y, on t'écoute.
Ce soir, je tiens à faire une petite mise en abîme sur un sujet qui nous tient tous à cœur, la radio. Ça fait plus de 4 ans que je parasite Radio Saint-Af par les moyens les plus abjects que l'on puisse faire. Pousser la crevardise jusque dans ses limites les plus retranchées, boire les fonds de verre de café, fumer les mégots de l'équipe salariée, arracher un bout de moquette pour m'en faire un semblant de matelas. Bref, la radio a pris sur moi comme une greffe. 4 ans que je m'intègre au mur et que je vis au rythme de cette radio. Mais maintenant, c'est fini. Les clopes n'ont plus le même goût. L'équipe salariée a abandonné le café pour le thé. Lâcheur. Les locaux sont devenus froids. Plus aucun intérêt de rester dans ce trou à rats destiné à couler. Sinon, réellement, ces 4 ans m'ont bien enrichi. Bon, pas financièrement. Et puis, je suis pas devenu tant célèbre que ça. Mais c'est pas grave, j'en veux à personne, j'ai pas la grosse tête non plus. Je sais très bien qu'un jour, je serai maître du monde ou une connerie dans le style, où je pourrai enfin prendre ma revanche sur l'humanité tout entière. Et sur ma famille, qui ne m'a jamais offert de chocolat à Noël. Mais je m'égare. Certes, mes traumatismes d'enfance ont alimenté mes chroniques pendant un moment, et sans ma schizophrénie bipolaire latente, je n'aurais pu rester aussi longtemps derrière un micro. Mais la chose que je retiens de ces années, c'est qu'en plus de rencontrer un tas de gens chouettes, j'ai pu travailler, m'éclater, apprendre le montage audio, à analyser des informations, et j'ai pu écrire et parler tout mon sou en faisant couler à l'encre, en faisant couler l'encre à flot. La radio, c'est un peu pour moi un moyen de travailler autrement la parole. De capter d'autres sons, d'autres formes. Des choses que l'on n'entend pas nécessairement dans la vie quotidienne. Une fêlure dans la voix, une modulation de timbre à peine perceptible, qui peut devenir un éclair d'émotion pour celui qui entend. Une vague de sentiments portée par des molécules d'air. Tout comme la radio est portée par les ondes. Ne voilà-t-il pas un moyen d'évoluer et de faire évoluer la société ? Qu'en parlant à la radio des choses qui nous semblent importantes, nous transmettons un angle de vue, un caractère, un savoir, une expérience, pour que d'autres aient une fenêtre sur un monde, une voix ou des notes de musique. L'essence de la radio reste la découverte, mais elle a ses limites. Nous devons nous libérer des écrans comme de la radio, comme de la parole. Nous avons tous beaucoup à apprendre des expressions, du langage non parlé, celui qui est commun à tous les êtres. La voix rentre trop souvent dans un processus mentalisé, matérialisé, alors qu'un simple regard, un geste ami, un sourire en coin, peuvent être riches de plus de sens que le discours le mieux retranscrit, peu importe ce qui est dit. Là où la radio offre une opportunité qui n'est pas sans intérêt, c'est celle de pouvoir garder un espace d'imaginaire. Quoi de plus drôle que de rencontrer un auditeur qui ne vous a jamais vu, mais vous reconnaît à votre voix. Les gens ne peuvent voir votre visage ni vos expressions. Tout l'effort réside dans le fait de jouer avec cet effet. C'est pourquoi on parle de sourire dans la voix. On essaye de faire entendre des expressions, de faire sortir les yeux par les oreilles. Voilà un aspect de la radio qui m'a énormément appris. En plus du fait de ressentir le poids des mots. Lourd, léger, lent, rapide. Quel plaisir lorsque les oreilles plongées dans le casque, on se baigne dans un torrent de mots. Essayant de lire derrière la voix le sens de chaque phrase. Mais n'oublions pas, nous tous qui avons la chance d'user de notre parole, qu'elle s'envole librement. Mais qu'elle est ô combien précieuse, si vous pouvez dire les choses qui vous sont essentielles, montrez-les par vos actes, mais ne restez dans le silence que pour réfléchir à ce que vous pourrez dire plus tard. La voix est l'outil le plus merveilleux qui soit. Sachons nous en servir avec toute l'importance qui lui incombe. Parlons pour cultiver l'éphémère. Donnez toute son énergie dans quelques lettres. Parlons et apprenons à nous comprendre. Ceci dit, il est bientôt temps pour moi de retourner au silence pour aller nourrir ma plume. Merci à Ben et à Phil de m'avoir permis d'intégrer cette équipe de cinglés.
يا كاين اللي عشو بهالدمه كاين اللي ملكو مكسوم وانايا اللي حدايا صايم ياك الميزيرية ما مليحاش بالرياقة كيفاش ندير باش نسر لك راسي يا وكيفاش نطرى واصي بلا ما نباصي نريحك ورضي ونلعب هارمسي كيفاش ندير هانا نانا نانا يا هانا نانا يا باش نسلك راسي يا وكيفاش نطراسي بلا ما نباصي نريحك وردي ونلعب هاروسي واذا مرقونا طف يا موطني تشيتشيني البلوز قرع بازوس جحب اني باربوس تشيتشيني ساني فيلو تشيتشيني انا خارج من طريقي انا هذي طريقي تشيتشيني تشيتشيني طوباريتش فقدي دوش لي ساندويتش تشيتشيني كرو دراغي بابي شلاتشيني كيفاش ندير باش نسلك راسي كيفاش نطرى باصي بلا ما نباصي نريحك وردي ونلعب هاروسي كيفاش ندير هانا نانا ناي هانا نانا ناي كيفاش ندير باش نسلك راسي يا كيفاش نطرى راسي بلا ما نباصي نريحك وردي ونلعب هاروسي كيفاش ندير قولولي 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 نخبطها في السماء مع أرى الجيرية
Merci Shams pour ton lyrisme. J'espère que tu auras du chocolat cette année, tu l'as bien mérité.
J'espère aussi.
Sûr qu'après t'avoir entendu, on va avoir des dizaines de recrues pour venir faire des chroniques au cul de l'église. On vous attend avec impatience.
Venez, venez, venez.
T'es sûr de ça?
Mais oui, venez nous parler de vos derniers délires ou de sujets plus sérieux, l'antenne vous est ouverte. Allez, je quitte un instant le poste hautement responsable de rédaction chef pour vous faire ma chronique. Les fêtes de Noël arrivent et cette fois, vous n'y échapperez pas. Noël, wow. Voilà des années que vous avez quitté cette folie commerciale. Autour de vous, les fêtes s'organisent. Votre voisin menace de filer des crises d'épilepsie à tout le quartier. Vos amis partent tous pour les vacances, les chroniqueurs aussi. Vos neveux sont anormalement sages depuis 2 semaines. Mais tout ça n'est pas pour vous. Pour vous, décembre rime au mieux avec bonne bouffe et beuverie du nouvel an. Blotti contre votre récente conquête, vous parlez de tout et de rien. Vous regardez passer l'hiver. jusqu'à l'arrivée d'une question innocente. « Ah, au fait, je voulais te demander, la semaine prochaine, tu viendrais fêter Noël avec moi dans ma famille ?»« Et merde, vous l'aviez pas vu venir, celle-là !»« Bon, bah, puisqu'il faut en passer par là. » C'est parti pour votre premier Noël dans la belle famille! Alors abordons ensemble le déroulé de cette fête, histoire de vous donner les conseils de survie nécessaires pour traverser cette épreuve sans trop d'encombre. Avant tout, une bonne préparation mentale est essentielle. Votre cher et tendre vous a rassuré. T'inquiète pas, ils sont sympas, ça se passera bien. Et puis votre belle-mère a renchéri. Mais oui, ne t'inquiète pas. Bon, il y aura le cousin Damien qui manquera pas de te taquiner, mais ça se passera bien. Et puis, avec mes frères et sœurs, les cousins, les grands-parents, on sera quoi? Une trentaine, pas plus. Chouette. Bon, on se calme. Vous connaissez quand même une partie des invités. Vous vous êtes entraîné à décocher un magnifique sourire Colgate. Vous connaissez votre manuel de conversation sur le bout des doigts. Vous avez même révisé la méthode de Hemlich. Eh, on sait jamais, si vous sauvez l'oncle Fernand qui s'étouffe sur un os de dinde, ça peut vous valoir des points. Deuxième partie importante pour la préparation, la tenue de combat. Comment allez-vous vous habiller? Là, l'avis de votre moitié n'est pas négligeable. Oui, mon amour, cette robe est magnifique. Un peu trop décolletée, peut-être. Non, je dis pas, hein, oncle Bernard va adorer. Tante Esther, par contre... Ou autre cas de figure... Ah, mon chéri, tu sais que j'adore ta crête. Le rose pétard, ça flash. Mon petit frère va être fan. Par contre, si tu pouvais me laisser préparer mamie Jacqueline avant de lui dire bonjour, la visite aux urgences un 24 décembre, je me le sens pas. Bref, tout dépend de ce que vous voulez donner comme première impression. Trop effacé, on vous oubliera aussi sec. Ce qui peut être judicieux si vous ne voulez pas participer aux obligations familiales. Trop remarqué, vous ne manquerez pas d'alimenter les conversations des 6 prochains mois, même si là aussi, c'est pas garanti qu'on vous réinvite. Bon, allez, vous êtes parés? La soirée commence. Arrivé dans la maison, la salle est bondée. C'est le grand moment des retrouvailles. La famille se souhaite la bienvenue, on retrouve les cousins éloignés qui n'avaient pas pu venir l'année précédente. On inspecte les nouveaux venus. Ah, mais voici les pièces rapportées! Bienvenue dans la famille! Ça y est, on vous présente le fameux cousin Damien, celui qui va vous coller toute la soirée. Il vous plaît déjà? Oh mon Dieu! Fabien est gay, je le savais! Non mamie, c'est juste que ma chérie a les cheveux courts. Pendant que votre beau-frère rassure mamie Jacqueline, votre moitié échange un sourire complice avec sa cousine Célia. Ah, Célia, voilà 3 ans qu'elle vient au repas de famille accompagnée de sa très bonne copine Émilie. Et cette année encore, mamie Jacqueline va lui demander si elle a enfin trouvé un mari et si on peut espérer un bébé dans l'année. Ah, toujours la même, cette mamie Jacqueline. Les présentations continuent, on passe à l'apéro. Vous avez déjà la migraine à force d'essayer de retenir les dizaines de noms qu'on vous a cités. Jusque-là, tout est normal. De toute façon, vous allez passer la demi-heure suivante à répondre à toutes les questions possibles. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Ah, et ça consiste en quoi? Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Vous êtes rencontrés comment? Quand vous réciterez, pour la 3e fois, le déroulé complet de votre CV, vous penserez avec nostalgie à ces entretiens d'embauche qui, finalement, n'étaient pas si horribles en comparaison. Au moins, le futur employeur ne sous-entend pas avec un clin d'œil qu'il espère des petits-enfants dans les 5 ans à venir. Enfin, la première épreuve se termine. On va pouvoir entamer l'étape la plus longue de notre parcours, le repas. Ici, gardez en mémoire une chose essentielle. Les personnes chargées de la cuisine se sont cassées le cul une journée entière pour préparer ce que vous avez dans l'assiette. C'est pas le moment de jouer les difficiles. Alors oui, d'accord, vous êtes allergique aux crustacés. C'est pas faute d'avoir prévenu à l'avance. Mais bon, ça fait 20 ans que la grande tante Yvette prépare son vrille aux fruits de mer à chaque repas de Noël. Tout le monde l'adore. Vous pouvez quand même pas leur demander de changer la tradition familiale comme ça. Puis vous plaignez pas, on a pensé à vous quand même. Un bol de riz blanc, un trait de ketchup, rouge et blanc, souriez, c'est Noël! vous vous rattraperez sur le prochain plat. Enfin, à condition que le cousin Damien ne pille pas dans votre assiette. Mais là, vous avez prévu le coup. À peine s'est-il approché que vous avez dégainé votre fourchette, prêt à lui planter la main s'il insiste. Waouh ! Damien est impressionné. Enfin, un adversaire à la hauteur ! À partir de maintenant, va falloir assurer côté répartie, parce que là, vous êtes adopté. Il va passer la soirée à vous tester. Mais rien que pour voir son air surpris, ça valait le coup. Par contre, mollo sur la blague. Si vous lui embrochez réellement la main, vous êtes bon pour une réputation de psychopathe. Pendant qu'on vous resserre de la purée, la conversation s'échauffe à l'autre bout de la table. Ah, mamie Jacqueline s'est lancée dans son discours habituel contre les Arabes. À 91 ans, on n'arrivera plus à la changer. Tout le monde regarde ailleurs, d'un air gêné, et malgré les remarques acerbes de sa fille, elle se fait une joie d'en rajouter une couche. Oui, je sais bien, vous avez envie d'intervenir. Surtout pas, malheureux, c'est un piège. Lancez-vous seulement à parler politique et vous vous mettrez la moitié de la famille à dos. Et l'autre moitié sera trop heureuse de vous manipuler pour régler ses comptes. Non seulement vous ne recevrez aucun soutien, mais en plus c'est vous qui allez passer pour l'emmerdeur de service. Alors, faites comme tout le monde, soufflez un coup, attendez qu'elle se calme. Et puis bon, si mamie Jacqueline commence à s'étouffer sur le riz aux fruits de mer, personne vous oblige à lui porter les premiers secours, hein. De quoi, la méthode Elmich? Ah non, non, désolé, j'ai oublié comment ça marche. Fin du repas, la bûche arrive! Alors oui, elle est excellente. Oui, vous n'avez pas mangé la moitié des plats proposés. Mais non, 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 décidément, vous n'avez pas le droit de chasser les enfants à coups de pelle à gâteau. Même pour protéger la dernière part. Faut vous y faire, Noël, c'est leur fête. Et ces enfoirés de gamins seront toujours servis avant vous. Mais bon, c'est qui l'adulte là? Consolez-vous sur le digestif. Plus le repas s'attarde, plus ils devront attendre pour ouvrir leurs cadeaux. Ah, déjà trois quarts d'heure qu'ils tournent autour du sapin, comme des fauves près d'un point d'eau. Savourez le spectacle, on n'est pas bien là. Malheureusement, même les bonnes choses ont une fin. Les fauves commencent à s'agiter dangereusement, il faut bien se décider à les nourrir. Le papier cadeau s'éparpille, les cartons sont déchiquetés. C'est là la lie, le grand moment d'angoisse. Est-ce que mes cadeaux vont plaire? Qu'est-ce que je vais encore me récupérer comme cochonnerie? Ne vous sentez pas concerné par ce concours. C'est la première fois que vous venez, vous ne connaissez pas encore tout le monde. Pour cette fois, ne prenez pas le risque du cadeau personnalisé. Non, la crème anti-rides pour belle-maman, c'est pas une bonne idée. Même si c'est une marque de luxe. Et la bouteille de fine pour papy Louis? Comment dire? Il aurait préféré laisser passer les fêtes avant d'annoncer sa cirrhose, mais bon, merci, hein. Non, sérieusement, est-ce bien la peine de vous ruiner pour ne récolter qu'un sourire poli? Qui signifie... Demain, je revends ce truc sur eBay. Mais sinon, je suis ravie, hein. Et les enfants, ils sont encore moins doués pour cacher leur déception. C'est bien la peine de se prendre la tête pour ces petits ingrats. Bon, en même temps, que se passerait-il si votre cadeau était réussi? Meilleur que ceux des parents. Ah oui, ce soir, vous serez adopté, ça c'est sûr. Ils vont vous adorer. Mais vous croyez vraiment que ça en restera là? Non! Maintenant, vous voilà condamné à faire aussi bien à chaque fête, chaque anniversaire! Bonjour la pression de malade! Et si la prochaine fois vous échouez, leur déception sera encore plus grande! Non, franchement, pour cette première, contentez-vous de faire soft. La boîte de chocolat, ça plaît à tout le monde. Sauf à la cousine Elsa, mais vous la ferez taire à coups de marron glacé. Et attention, détail capital, il faut que les chocolats soient bons. Oubliez les Pères Noël en chocolat du supermarché. Vous avez déjà vexé les parents avec un cadeau fastueux, n'allez pas en plus refiler une crise de foie à leur gamin. Même si vous en rêvez secrètement.
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi.
Ah, la soirée porte sur sa fin. Voilà déjà une heure que vous êtes ailleurs. Vous avez déjà imaginé 6 scénarios possibles pour esquiver les prochaines fêtes de famille. Eh, c'est ça ou refaire votre stock de blagues pour pas vous faire distancer par le cousin Damien. Il parle déjà avec enthousiasme de votre prochaine visite, vous avez pas fini d'en baver. Mais en tout cas, pour ce soir, c'est fini. Enfin, vous rentrez à la maison. Au calme. Bah, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu fais encore la gueule? Oui, pardon, je sais que le chocolat partira pas facilement de tes vêtements. Je suis vraiment désolée d'avoir fait tomber ma part de bûche. Mais c'est Esther qui m'a bousculée. Oui, je sais, j'aurais pas dû lui écraser les doigts avec mon assiette pour l'empêcher de se resservir. Bon, tu vas pas râler toute la semaine, c'est quand même pas si grave. Ah, tu voulais remettre la même tenue demain? Demain? Oh la vache, c'est vrai! Demain on fait le repas de famille avec ton père. Oh putain, au secours! Non mais sérieux, vivement le nouvel an quoi. Qu'on puisse boire toute la nuit et oublier tout ça.
Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui, pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes Santiago devant la cheminée, vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc, avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les giboles et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing. Il y avait de la suie et des molaires, le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Je lui avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du Parti Socialiste. M'a carrément amené peau de balle, l'avait pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé pour se piquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Fait que le pinard l'a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une quête au carré. Il était bourré comme un polac le mec, dis donc, il a fait un boucan d'enfer. Il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires. Il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de Provence. Veuillez me passer l'expression, il a germé dessus, quelle élégance. Il s'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça. Il m'a chouravé aussi ma gratte, il m'a juste laissé le boxon, gonflé le mec hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement, parce qu'il serait barré avec, hein, il serait pas gêné. Je veux plus jamais le voir chez moi, le Père Noël, c'est un pauvre mec. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite et bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Allez, casse-toi. Arrache-toi de là. Parce que d'abord, je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël. T'es un vrai cambrioleur, oui. Père Noël noir, t'as déjà vu ça? Ça existe même pas. Dieu est noir, Père Noël, il est normal. Non, non, les bottes, non. Non, le blouson, oui, mais les bottes, non. Non, je vais appeler la police. S'il vous plaît. Non, sortez, faites pas les cons. Comment? Présentement? Y'a pas de comment présentement? Si tu veux, vieux. J'estime que bon, tu n'as pas... Comment? Non! Je dis pas que les bottes, bon les bottes je les file si tu veux, vieux. Mais le blouson, non. Si, aussi, bon d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme? Oui, elle est là, oui, tu veux la voir? Dominique! Y'a un mec, je veux te voir.
Je suis pas du tout essoufflée. C'est cool, bon. Ça va?
Tu veux un verre d'eau, Camille?
Ouais. Donc on va enchaîner directement avec Vince, ça me laissera le temps de récupérer. Hein. Vas-y Vince, l'antenne est à toi.
Petit générique, s'il vous plaît.
Oui, petit générique, mais bordel de merde, c'est qui a trafiqué le...
Oh, oh Mais
que se passe-t-il?
Quelqu'un a touché au toucheur.
Bon, y a pas de générique du coup?
Non, mais si, y en aura un, parce que de toute façon, Shams fera tout pour que tu aies un générique.
Ah, merci Shams.
Voici.
C'est beau.
C'est pour toi.
Un tel soutien.
Quel technicien.
Vincent, c'est pour toi.
Merci. Il y a des oiseaux sur cette planète, mal depuis l'archéoptérique. Il ne semble-t-il pas étrange qu'il s'est attendu tout ce temps pour déclarer la guerre à l'humanité?
Je crois que c'est vous qui êtes la cause de tout cela.
Je n'arrive pas à croire que quelques oiseaux peuvent nous amener à la fin du monde.
Je crois que vous êtes le diable! Le diable!
Bon, alors voilà. Il y a 3 jours, ont eu lieu, comme vous le savez, des attentats à Berlin. On est tous d'accord pour dire que c'est inadmissible, inhumain, horrible, infâme, enfin tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de mots pour décrire le truc, quoi.
Non, mais c'est vrai, vu les prix des camions, moi, mais... je trouve ça vraiment...
Mais enfin,
c'est scandaleux.
Arrêtez, ne me salopez pas mon truc, hein. Commencez pas. On est que 3, merde. Un peu de respect.
Vengeance.
Mais quand même, voilà, moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Voilà, hier, on apprenait que la police allemande avait retrouvé les papiers d'identité d'un suspect à l'intérieur même du camion ayant servi au cinglé en question. Putain, mais merde, à chaque fois, c'est pareil, quoi. Le 7 janvier 2015, le jour des attentats contre Charlie Hebdo, on apprenait que les gars avaient négligemment laissé dans la bagnole, ayant servi à l'attentat, la carte d'identité d'un des frères Kouachi. Non mais putain, faut déjà être con, franchement. Le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats parisiens, les papiers syriens des kamikazes du Stade de France sont retrouvés par miracle par la police. Bon, ceux-là, c'était des faux. C'est avéré. A priori. Enfin bon, c'est ce qui se dit. On sait pas trop. Le 14 juillet dernier, un autre agité du bocal réussit à massacrer 86 personnes en roulant sans trop de problèmes sur la promenade des Anglais un jour de fête nationale, dans un état en état d'urgence. Là encore, l'abruti en question laisse ses papiers sur place. Ok. Mais pourquoi? Pourquoi donc des types qui ont clairement comme objectif d'aller commettre des attentats ont-ils leurs papiers sur eux? Il y a une charte du bon djihadiste qui impose des papiers, de porter ses papiers d'identité sur soi pour faciliter le travail des keufs. Enfin, je comprends pas.
Shams pourrait te dire oui.
Quelque chose m'échappe.
Oui, non, mais moi aussi, j'ai jamais trop compris.
Shams, ton stage en djihadisme avancé, ils t'ont parlé
de
ça?
Écoute, oui, ils se doivent de laisser leur passeport ou leur carte d'identité. Je sais pas, c'est comme ça. C'est, tu fais
donc
un attentat,
ça,
tu as ta carte d'identité. Sinon, t'es pas un terroriste.
Ok. Mais du coup, il ouais, y a quand même y a un truc que vraiment je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe clairement. Hein. Sur Internet, on peut lire tout et n'importe quoi hein, là-dessus d'ailleurs. Il n'empêche qu'il me semble que la grande majorité des attentats commis depuis 2001 et à l'encontre du monde occidental, c'est important de préciser, ont été faits donc par des abrutis, exclusivement. En effet, souvenez-vous, le fameux 11 septembre 2001,
là où tout a commencé.
Et oui, le passeport d'un des suspects avait été retrouvé quasi intact parmi les décombres. Intéressant. Bon, on va pas vous faire un tableau ni un cours de statistiques avancées quant aux probabilités que la chose arrive. Hein, faut pas s'appeler Einstein pour... Mais enfin bon. Tout ça pour dire que quand même... Eh ben, toutes ces histoires de terrorisme, on peut se poser des questions, beaucoup de questions dessus. Surtout le terrorisme occidental, enfin en terrain occidental. Du coup, il y a plusieurs théories. Voilà, il y a les terroristes, comme tout bon humain qui se respecte dans ce monde de capitalisme exacerbé, sont malléables et sujets aux phénomènes de mode. Donc ils feraient comme les abrutis du 11 septembre, et qui sont, il faut le dire, passés à postérité, suite à leurs méfaits et à la découverte du passeport. Et donc ils ont laissé une signature dans l'histoire, une gravure, voilà, dans l'espoir d'être connus. C'est quand même bizarre quand même. Hein. Ah putain, les mystères de la mode. Deuxième théorie. Les terroristes seraient des grands narcissiques et souhaiteraient signer leurs actes. Enfin bon, c'est bizarre, parce qu'avec le nombre de fois où ça pète en dehors des pays occidentalisés, on n'a jamais entendu parler de ce genre d'histoire, il me semble. Et enfin, la troisième possibilité serait que nos gouvernements se foutent clairement de nos gueules. Mais là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et à toutes les possibilités. Donc je vous laisse regarder ce qui se trouve sur le sujet, c'est assez étrange. Vous ferez votre propre avis, mais cela mérite réflexion.
Forget what you know. Welcome to the motherfucking battlefield.
I two-step with Lucifer, and ever since I started dancing, I walked the fine line between Einstein and Charles Manson. Starved this famine with my stomach growling, like someone shouting 100,000 times louder than thunder pounding. Fuck around and I'll punch your mouth in. I'm king of the mountain with my life in this project like it's public housing. Counting on the fact I firebomb entire songs and won't stop till the world's inside my palm like Viacom. Diabolic, I'll supply the higher wattage via fiber optic wire till you acquire some kind of knowledge. Cause life made me grow wiser than old timers, hot-headed like the Ghost Rider behind a slow driver. Soul survivor, flowing live is second nature, so don't test. It's best to save your breath like respirators. I throw a punch at your ribs that gives your lungs asthma and hash. You're pouring out your guts faster than Dutch masters. Drunk bastard, past the point of no return, like Denzel tricking Ethan Hawke into smoking sherm. Judgment overturned, holding court like Mordecai. Immortalized when I make statues bleed and portraits cry. I'll go to war for mine, rebel army, guard the border. I'm in the trenches barking orders like I'm Sergeant Slaughter. Pray to Jesus, H for mercy and plead your case. Cause on the front lines, you're dead the second that you see my face.
This is the front line, this is the dead zone. Barely alive or in a box, that's how you head home. This is the front line, this is the life that I chose. I thought I told you motherfuckers to lock and load.
This is the front line, this is the dead zone. Barely alive or in a box, that's how you head home. This is the front line, this is the life that I chose. I thought I told you motherfuckers to lock and load.
They said that the success of my music was theoretic, but my revenge is sweet enough to murder diabetics. Eugenics, Procter & Gamble, credit racial science. Couldn't produce a more aggressive intellectual giant. Nephilim, bury him with the bullets left in him. My heart is blacker than the children of Thomas Jefferson. Blacker than back in the days of the tar and feathering. A cancerous endocrine, the eagle ass American. The hatchet and the sticks, the fascist emblem. You could call it conspiracy theory, I don't give a motherfuck. You could get your motherfuck. National security's a cold word for cover up. Hold that down, I look at character. Never let the color get to you. I got white revolutionaries like Muslims in Chechnya. Percussion thumping like the Russian mafia over you. But even they know what it's like when you fighting for Svoboda. So whether Slavic or Islamic, vodka, gin tonic, drunken fantasies are cool, son. But here's the grim logic. You niggas wanna play industry and start to be rich until they fuck you for millions like Paul McCartney's bitch. My lions live inside a box like Jumanji. Sick niggas that'll stab you up like Indira Gandhi. So never desecrate the space on which I meditate. My thoughts rip through tank arm and metal plates and start to resonate to the spot where Moses caused the sea to separate. The place that the prophet Muhammad started to levitate. The exact moment that Jesus throws that awake. Answer the harder became the Buddha that regenerates. Half a bar over, but I bring it home colder than dead soldiers. So controller, holder of knowledge, so fuck Dianetics. I'm like the whole library in Kemet with Anunnaki genetics.
This is the front line, this is the dead zone. Barely alive or in a box, is how you head home. This is the front line, this is the life that I chose. I thought I told you motherfuckers to lock and load.
This is the front line, this is the dead zone. Barely alive or in a box, is how you head home. This is the front line, this is the life that I chose. I thought I told you motherfuckers to lock and load. Yeah, motherfucker, immortal check dig, diabolic. This is the front line, the people first one time. 32 and a little something. 33 degrees, motherfucker. Go home and figure it out.
Bienvenue sur théorieducomplot.org, le site qui vous dit toute la vérité. Bon, plus sérieusement, on n'a pas fini de se faire embrouiller, c'est mal parti. Et Vince, tu nous as mis quelle musique pour illustrer ta chronique ?
C'était Frontlines, Immortal Technique en featuring avec Diabolik. Et c'était un peu vénère, ouais. Bon, je suis un peu désolé pour tous les gros mots et tout qu'ils ont dit en anglais. Mais voilà, ils sont plutôt excités, et puis du coup, ils disent des choses vraies, c'est anti-guerre, ouais, c'est aussi un peu pro-armes, je crois, mais
ouais, c'est, de la
mais c'est
de
pour régler le compte aux bourgeois, voilà. Enfin bon, bref, passons. Après, pour revenir sur théorieducomplot.org, moi je fais que dire voilà, ce que j'ai trouvé sur internet et tout, mais je me pose quand même des grosses questions. Après, de là à dire que tous les gouvernements sont de mèche et tout, que c'est...
Non, quelle idée.
Que c'est Sarkozy ou Hollande qui a tué les gens, non, je ne dirais pas ça. Mais...
Non, eux, ils font que vendre des armes, où est le problème ?
Oui, ouais. Si on part par là, alors là, par contre, du coup, ils sont incriminés.
Oui, non,
parce que du coup, on est quand même le deuxième marchand d'armes. Non, deuxième normalement.
Ah ouais,
bah,
ouais.
L'année dernière, on est repassé deuxième du coup vendeur d'armes au monde.
On a explosé les parts de marché.
Oui, mais grave, merci Dassault.
Mais nous, on fait que les vendre, quoi. On pousse pas les gens à les utiliser.
C'est vrai, c'est vrai.
Moi, si j'achète un missile seul air pour aller dans mon jardin, enfin voilà, n'importe qui peut avoir besoin d'acheter.
C'est vachement moins kitsch.
Bah ouais, comme décoration en plus.
Enfin, pas mal. Ouais. Mais il faut se poser des questions quand même. C'est tout bizarre.
Donc merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Bon, donc il y aurait encore beaucoup à dire. Hein. On n'est pas encore sorti de l'état d'urgence, donc on y reviendra sûrement dans d'autres émissions.
C'est clair.
Et il nous reste 20 minutes d'émission. Donc on a largement le temps de reparler de ton sujet de la semaine dernière.
Quoi ?
Donc Vince, tu vas nous parler d'études d'impact.
Si le cœur vous en dit.
Fais-nous rêver.
L'évolution, ça veut dire... L'évolution, c'est... L'évolution, ça veut dire...
Oui, jeudi dernier, nous avons abordé le sujet des études d'impact. Bon, j'espère que vous avez réussi à suivre tant bien que mal, malgré, on va dire, l'effervescence qui régnait dans le studio. Voilà. Hein, Shams ?
Non, j'ai rien dit, moi. Je suis neutre. Tu as suivi.
Bon, bah reste neutre toujours. Alors. Et voilà, donc, on va faire un petit récap, vite fait, de ce qui a été dit la semaine dernière. Donc, point numéro 1. L'étude d'impact intervient donc dans le cadre d'un projet d'infrastructure industrielle, de transport, d'urbanisme, etc. Ensuite, appel d'offres publiques, donc auxquelles répondent des bureaux d'études. Suite à cela, des inventaires de terrain sont menés donc sur les différents groupes d'espèces, végétales et animales, qui sont présentes sur le territoire. De ça, on définit des enjeux en fonction des espèces qui sont présentes. Puisqu'il faut savoir, comme on l'a dit la semaine dernière, qu'une espèce qui est par exemple considérée comme en danger, enfin comme à surveiller on va dire en France, parce qu'il y a plusieurs classes qui existent, et en danger c'est quand même assez rare, à surveiller aura plus de valeur qu'un rouge-gorge par exemple, ou qu'un pinson des arbres, des espèces communes de vos jardins. Voilà. Donc ces espèces servent à définir les enjeux. De là... on essaie d'analyser les impacts que pourrait avoir le projet en cas de mise en œuvre de celui-ci. De ces impacts estimés, on établit des mesures d'évitement d'impact ou d'ailleurs, des mesures de réduction d'impact et ou des mesures de compensation d'impact. Voilà, on en était arrêté à peu près à ça, il me semble, hein.
La dernière fois ?
Ouais.
Quelque chose dans ce goût-là, ouais.
Quelque chose dans ce genre, hein. Ouais. Voilà, donc on en était là. Et il me semble qu'on n'a pas pu trop expliquer après ce qui se passe au niveau des mesures. Ce qui est quand même malheureux, puisque c'est quand même vachement important dans le cadre d'une étude d'impact, puisque tout projet a un impact sur l'environnement, quel qu'il soit, et dans certains cas, ils sont majeurs. Majeurs dans le sens où des espèces protégées et à forte valeur patrimoniale, on dit, donc à fort enjeu de conservation, de par leur statut de protection, peuvent être soit tués, par exemple dans le cas de collision, on parlait de parc éolien la semaine dernière, donc on va rester sur ce sujet-là, et du coup par exemple les vautours fauves, les vautours moines sont des espèces qui sont très sensibles à l'éolien. Il faut savoir qu'en Espagne, en 20 ans, il y a quelque chose de l'ordre de 7000 vautours, il me semble, fauves, qui ont été tués donc sur 20 ans d'exploitation éolien en Espagne. Donc on est vraiment sur une espèce qui est très très sensible.
Sur des populations de combien ?
Sur des populations qui sont... j'ai plus les chiffres en tête, donc je vais pas trop m'avancer parce que j'ai peur de dire une connerie.
Une fourchette.
Mais une fourchette en Espagne, on doit être actuellement à au moins 35 000, je dirais. Couple nicheur.
7000 sur 30, oui d'accord.
Couple nicheur. Après, 7000 c'est sur 20 ans d'exploitation. Donc après, tu as une population qui croît et tu as un facteur de réduction du coût de cette population qui, là en l'occurrence, est l'éolien. Quoi. Donc après, il faut peser aussi. C'est en ça aussi qu'on raisonne, nous en tant qu'écologues qui bossons sur les études d'impact, c'est qu'on fonctionne toujours sur la population. Le but, c'est pas de protéger genre un individu, mais de protéger l'espèce et l'habitat de l'espèce. Il faut parce que de toute façon, l'impact de l'homme, il est majeur, il est là, et on ne peut pas faire sans. Sinon, il faut rater le développement. Et du coup, ça, Voilà, on est tous bien conscients que c'est pas du tout le cas. Et
du coup, ça doit être bien calculé, parce que j'imagine que depuis l'arrivée des éoliennes, c'est un peu arrivé en masse d'un coup à certains endroits, ça a dû être vite surveillé.
Et ben, c'est surveillé, ça a été surveillé, pas mal. Il y a eu pas mal de publications qui ont été faites, mais en contrepartie, ce que moi je ressens, et ce que aussi de nombreux ornithologues et de gens du domaine ressentent, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des gens qui sont pas honnêtes, quoi. Enfin, il y a des malhonnêtetés, voilà, qui sont faites au niveau des suivis, ce qu'on appelle ça des suivis donc écologiques post-implantation, et en l'occurrence sur des parcs éoliens, on a des suivis de mortalité. Moi, j'ai jamais fait ça, mais du coup, ça pourra m'arriver. Et du coup, le but, c'est quadriller en fait le parc éolien autour des éoliennes et essayer de trouver du coup, enfin,
des cadavres,
ouais, voilà. Et du coup, c'est réparti sur une année avec des passages répétés sur chaque éolienne à différents moments donc de l'année qui correspondent aux migrations, qui correspondent à la période de nidification, donc migration printanière, migration automnale et période d'hivernage. Et en fonction de ça, sont définis via des calculs, des stats, des fonctions, enfin toute une bibliographie vraiment scientifique qui a été faite. Hein. On établit du coup un niveau de mortalité du parc, une moyenne en fait. C'est par extrapolation statistique, sont données en fait des estimations, par exemple un parc... Je vais dire une connerie, hein, je n'ai pas de chiffre en tête, mais par exemple, tel parc va taper 0,98 oiseaux par éolienne et par an. Ça, c'est ce genre de phrase qu'on peut trouver dans la littérature. C'est vraiment particulier. Hein. Et du coup, malheureusement, là-dessus, il y a des malversations qui sont faites. Et il y a eu des histoires qui ont été notamment relayées par le Canard Enchaîné dans l'Hérault, comme quoi, du coup, ces chiffres ont été cachés volontairement parce qu'en fait, ces suivis sont payés par l'exploitant éolien. Donc c'est l'exploitant éolien qui en fait est obligé dans les premières années d'exploitation du parc de mettre en place un suivi du coup de mortalité du site pour évaluer du coup l'incidence de son parc éolien sur du coup en l'occurrence les oiseaux, l'avifaune, et du coup ce suivi est payé par le promoteur éolien. Voilà.
Et donc diffusé par le promoteur éolien derrière.
C'est pas diffusé. Ce sont des données qui sont privées du coup. Qui sont privés et qui ne tombent dans le domaine public que rarement.
Sympatoche ?
Ouais, sympatoche, ouais. Il
y a plein de trucs qui marchent comme ça.
Ah oui, complètement. Mais dans le cadre des études d'impact environnemental, ça pose quand même de gros problèmes, parce que c'est la porte ouverte vraiment à toutes les grosses dérives. Hein. C'est-à-dire que le promoteur du projet arrive avec son portefeuille bien rempli, et distribue de ci, de là, quelques liasses à droite, à gauche, pour du coup falsifier en fait des suivis de mortalité sur des parcs éoliens.
Mazette, il y aura de la corruption.
Mais non, voyons, il n'y a jamais de pot de vin dans l'industrie.
Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Et du coup, voilà, malheureusement, il y a des fois où ça se passe comme ça. Bon, après, je ne dis pas que tout se passe comme ça non plus. Il faut bien faire la part des choses. Hein. Moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir des gens dans mon giron professionnel qui sont plutôt confiants et qui me disent des trucs, mais du coup il y a en fait au final on est quand même peu nombreux à s'en rendre vraiment compte à quel point des fois on se fout de notre gueule dans le domaine de l'environnement, quoi. Voilà. Et du coup là il faut savoir que par exemple l'histoire sur le cause de, donc c'est le cause d'Omlas, hein, l'histoire dont je parlais tout à l'heure qui a été relayée par le Canard Enchaîné, bon c'est pas tout clair, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais a priori, la LPO aurait cautionné, du coup, donc la LPO Hérault, hein, aurait falsifié en fait des données de mortalité sur un suivi de mortalité sur le parc éolien du Causse d'Omlas, donc, qui est situé pas très loin non plus de chez nous, hein, le sud d'Aveyron, c'est le nord de l'Hérault. Et donc voilà, là-bas, il y a eu, je crois que c'est entre 2005 et 2011. Ah, j'ai plus date en tête, mais je crois que c'est genre sur 5 années de suivi, il y a eu avéré 12 cas de mortalité de busard cendré, qui est une espèce classée en danger du coup en France, et du coup c'est loin d'être négligeable, c'est un taux de mortalité qui est très significatif, et ça du coup ça a été déclaré à la baisse donc par la LPO pendant les années de suivi, donc le Canard Enchaîné a pointé le dossier du doigt et ça a fait du foin. Il y a des assos qui se sont fait taper sur les doigts aussi à côté parce que du coup elles allaient à l'encontre aussi de ce suivi. Enfin bon, c'est un milieu qui est assez opaque, voilà, et moi ça me tenait à cœur en fait d'en parler et d'expliquer ça aux gens parce que du coup c'est un domaine qui est peu connu, c'est très peu connu et ça mérite qu'on s'y penche parce que ça engrange beaucoup 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 d'argent. C'est très porteur au niveau des subventions européennes aussi également, parce que du coup après la revente à EDF est très lucrative hein, pour les promoteurs éoliens. Enfin bon, c'est vraiment particulier, voilà. Donc voilà, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a du pour, il y a du contre, c'est assez étrange. Et c'est comme ça.
Ah, mais le marché écolo reste un marché. On va pas non plus se laisser emmerder par des hippies qui veulent sauver trois piafs. Pas déconner non plus.
Mais c'est pas tant que ça. Enfin, tu vois, disons qu'il y a des gens qui sont motivés, qui font leur travail avec vraiment, enfin, une rigueur scientifique. Enfin, tu vois, on n'est pas des rigolos, tu vois. Enfin, quand on va sur le terrain, enfin. On est là pour faire des inventaires scientifiques. Enfin, tu vois, c'est protocolé. Il y a tant de minutes à passer sur tel site. Voilà, on a un rayon d'action de temps. Enfin, tout est très calculé. Tout est renseigné sur papier. Tout est noir sur blanc. Enfin, on a les dates de passage sur les sites, les heures de prospection pour tel et tel groupe d'espèces. Tu vois, la météo est renseignée.
C'est cadré.
La couverture nuageuse, la température, la vitesse du vent. Enfin,
L'hygrométrie,
on ne fait pas. On n'a pas le matos. Mais si on avait le matos, on le ferait. Tu vois, mais non, enfin, du coup, il y en a qui se font vraiment chier à faire des trucs bien pour qu'au final, ce soit bâclé par de la hiérarchie, en fait, du coup, politicarde, hein, clairement. Et voilà. Et là, donc, la hiérarchie politicarde en question, c'est donc bien sûr les services de l'État, les groupes de lobby qui œuvrent aux côtés des porteurs de projets, les groupes financiers qui permettent à ces porteurs de projets de financer leurs projets et qui demandent des retours sur investissement de façon systématique, donc qui incitent à la baisse, du coup, par exemple, dans le cadre des mesures de compensation dont on a parlé, ce genre de choses, quoi. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, peut-être rebondir, ou sinon, passer à autre chose,
je ne sais pas. J'en ai juste une, mais je ne sais pas si tu es au courant, forcément.
Vas-y, vas-y.
Par rapport à ces piafs qui se prennent dans les pales des éoliennes.
Oui.
Je voulais juste savoir, est-il vrai, ou est-ce une rumeur, que les éoliennes verticales, donc à pales hélicoïdales, impactent moins, tuent moins d'oiseaux que les éoliennes normales qu'on peut voir à droite à gauche?
Alors, j'ai jamais lu d'éléments vraiment scientifiques là-dessus, mais dans tous les cas, oui. Enfin, je te réponds oui, parce que du coup, ça paraît complètement logique, dans le sens où une éolienne, du coup, classique, comme on les voit en France, elles ont donc un rayon d'action au niveau du rotor qui est de l'ordre de 90 à 120 mètres, suivant les modèles de rotor et les modèles de pales qui sont montés sur ces mêmes rotors. Et du coup, la vitesse de rotation en bout de pale est de 300 à 320 km/h. Donc autant dire que dans le règne animal, cette vitesse, mais je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, donc cette vitesse n'existe pas dans le règne animal. Donc, ça fait un sacré tourbillon, voilà, on en a aussi discuté, on appelle ça le barotraumatisme, et ça fait éclater les organes, par exemple, internes, des chauves-souris et des oiseaux quand ils passent à proximité du coup des pales. Donc sans les toucher, même les éoliennes peuvent avoir vraiment une cause de mortalité significative sur des espèces volantes, c'est prouvé, hein, ça c'est prouvé. Et du coup, forcément, les éoliennes hélicoïdales, donc comme tu le dis, Shams, n'ont pas du tout ce problème-là, mais sont beaucoup moins rentables. Voilà, voilà. Il faut savoir qu'un mât éolien implanté en France, en moyenne, c'est 1,5 à 2,6 mégawatts du mât, tu vois, installé, en fonction du rotor, justement, et de la zone d'implantation. Donc pour l'instant, les éoliennes hélicoïdales, c'est pas rentable. J'ai entendu parler aussi d'un projet d'éoliennes sans pales. Ouais, juste des mâts, c'est à l'étude apparemment en Espagne, j'ai pas bien compris comment ça marchait, mais ce serait, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait les pressions exercées sur le mât par le vent.
Je crois que c'est les oscillations,
Ouais, mât. C'est ça, c'est les oscillations du mât, ouais, c'est ça, c'est un truc dans le genre, ouais, carrément. Mais pareil, pour l'instant, la rentabilité est vraiment infime, et du coup, bah, y a, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt en fait, aux banques à financer ce type de truc, hein, puisque c'est pas rentable. Donc voilà, pour l'instant, ça rapporte pas assez, et puis du coup, de toute façon, les promoteurs ulins se gavent tellement avec ce qu'ils leur est proposé maintenant sur le marché, et puis de toute façon, ils ont quand même... enfin voilà, c'est qu'ils sont en place. Bon, il n'y a pas de lobbying parce qu'ils sont, enfin pas de monopole, je veux dire, parce qu'ils sont pleins, mais quand même, enfin c'est un groupe de monopolistes, on va dire.
Si ça se dit vraiment. Monopolistes.
Ouais, je joue Monopoly. Mais enfin bon, voilà quoi. Après le problème, moi je le dis tout le temps, c'est que c'est que la politique énergétique française, elle est trop mitée par le lobbying. De toute façon, ça voilà, on va pas la prendre aux auditeurs de Radio Saint-Taf, je pense. Hein. Tout le monde sait que c'est plus ou moins pourri partout. Et du coup voilà, enfin on ferait mieux de développer de l'éolien en milieu urbain sur des tours, par exemple, je pense par exemple à Marseille, ville portuaire exposée au vent régulièrement dans l'année. Quand on voit le nombre de surfaces du coup artificialisées, donc le milieu est déjà pourri. Enfin je veux dire,
ils sont plus à ça près.
Bah c'est pas qu'ils sont plus à ça près, mais enfin disons qu'ils ont quand même l'usine de merde de Gardanne. Qui déverse un lot de saloperies monstrueux du coup via le tunnel, enfin le conduit qui se jette dans le bah, non c'est un conduit qui est enterré, hein. Vous avez entendu parler de cette histoire?
Ça se balance directement dans la mer.
Ouais.
C'est charbon.
C'est une usine, c'est une centrale thermique du coup qui fonctionne au charbon, et du coup bah ils ont des bouts rouges forcément à retraiter quoi, hein, comme toute centrale à charbon, donc c'est ultra polluant, hein, les résidus sont monstrueux, les volumes.
C'est quoi qui est extrait? C'est du soufre du coup?
Bon, il y a plein de merde, de ouf, c'était que du soufre, ce serait très bien. Ah non, malheureux, non, il y a plein de métaux lourds, beaucoup de métaux lourds, beaucoup, dont vraiment des choses ignobles. Mais je pourrais pas donner les références, mais normalement je devrais avoir les infos bientôt.
Ça donne envie d'aller se baigner dans les calanques?
Ouais, bah ouais, carrément. Bah moi j'ai une pote qui a Sea Shepherd, et du coup, justement, ils ont fait des relevés là cette année là-bas. Et il faut que je la rebranche là pour avoir un peu des infos. Mais il y a moyen de faire un bon
tu
truc
nous tiens
aussi.
Au courant, alors.
Ouais, carrément. Et donc pour en revenir du coup voilà à Marseille, donc cette ville est alimentée donc en électricité via cette grosse poubelle immense donc à Gardanne. Hein. Moi j'ai habité dans le nord du Var, on voit la merde que ça déverse du coup sur l'atmosphère, hein, depuis le nord du Var, hein, c'est assez facile, vous montez sur la Sainte-Victoire, on voit une couche de merde orange sur toute la plaine en dessous, enfin c'est fabuleux. Et du coup donc Marseille est alimentée en électricité principalement grâce à ça. Et voilà, enfin moi je me dis Marseille ville exposée aux quatre vents. Où ça souffle quand même assez régulièrement, pourquoi ne pas mettre en place un projet, tenter le coup, au moins de façon test, enfin je sais pas, ça mange pas de pain. Quand on voit qu'une éolienne mise en place en plein champ, ça coûte entre 1,5 à 3 millions d'euros d'installation pour un mât, du coup on se dit quand même, est-ce que d'investir quelques millions par an dans du micro-éolien ou de l'éolien urbain, même en accentuant sur les nuisances, la réduction des nuisances sonores, la réduction de plein de nuisances. Enfin, on a quand même de la technologie, on a du pognon pour faire ça, mais c'est mal investi, c'est mal réparti, c'est concentré.
Là encore, il faut voir si c'est rentable.
Oui, mais si on ne teste pas, si on ne pousse pas dans cette voie, jamais ce sera rentable. Enfin, si les moyens sont mis à un moment, on en est tellement à un point maintenant en recherche et développement, enfin, les moyens sont monstrueux, hein, c'est monstrueux, monstrueux, on ne se rend même pas compte, hein, c'est même pas envisageable pour nous, enfin, à notre échelle. Et du coup, enfin, on a clairement les compétences pour développer ce type de technologie, mais on ne le fait pas pour couvrir des intérêts personnels de gros groupes, filiales et sous-filiales et compagnies. Et voilà.
Eh ben, merci Vince pour toutes ces précisions. Et t'es vachement plus à l'aise quand on n'est pas nombreux en fait.
Mais... Ça va bien, hein. Ouais, bah je sais pas, on se fait moins couper la parole et tout.
Ouais, c'est ça en fait.
En fait, on devrait faire ça à chaque fois.
Bah vas-y, alors, allez, on va faire un réédit du coup de notre appel à tout à l'heure, voilà.
On préfère rester en
comité restreint. Restez tous chez vous, c'est Noël tous les jours, cassez-vous putain.
Exactement.
Parce que d'abord, on s'en sort super bien tout seul, on a tenu l'heure entière, on est trop fort et on vous éclate tous.
Ouais, enfin bon, on va quand même se calmer, hein, parce que non, ouais. Attention. Non, parce que ça me fait penser à un petit court-métrage que j'ai vu hier, là, Le Temps des Bouffons. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir ça, c'est trop bon. On en parle en off.
Ouais. Bon, en tout cas, juste un dernier petit appel pour dire aux auditeurs que le Shag Shag est arrivé.
Ah oui, 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 oui.
Oui,
c'est vrai.
Ils ont accosté hier à Hembourg et j'espère que très bientôt nous aurons un phoneur.
Grave.
Et moi aussi, j'ai un truc à dire. Demain soir, au lieu dit, il y a soirée jeu pour ceux que ça intéresse. Donc c'est en participation libre. Et il y a aussi un repas pour ceux qui prendront la peine de téléphoner pour réserver. L'assiette est à 8 euros, c'est du tagine. Et il faut réserver au 06 40 60 33 37. Merci. Et mais surtout, venez jouer.
Mais normalement, on fait pas de pub sur Radio Saint-Affrique.
Si, j'en profite honteusement parce qu'il n'y a pas l'agenda cette semaine.
C'est vrai. En plus, ils se sont tous barrés en vacances. Il n'y a plus que les techniciens.
Et les chroniqueurs fidèles.
Fidèles au poste.
Ah.
Bon,
Cacapo, on pense à toi.
Ouais. Première émission sans Cacapo.
C'est clair. Salut à tous.
Allez. Bonne soirée.
Bonne soirée, bon week-end.
Ciao.
Et bonne fête. Bon courage aussi.